Bonjour à tous, bienvenue sur les antennes de Principe Actif et d'HDR. Le pire reste à venir, le pire c'est qu'on ait fini par le croire. Big up à toutes les équipes salariées et bénévoles de nos antennes et puis surtout à vous, amis auditrices et auditeurs. Aujourd'hui, lundi 2 septembre 2019, c'est évidemment la rentrée, vous le savez, et c'est y compris pour nous la rentrée. On est très heureux de reprendre cette nouvelle saison radiophonique et notamment ces matinales avec quelques petits changements. On devrait retrouver l'ami Jean-Jean le mardi matin, en lieu et place de l'ami Deux, qu'on salue évidemment. Certainement Monsieur Mosquito les mercredis matins, Pauline le jeudi et moi-même les lundis et vendredis. En tout cas, c'est à peu près prévu de la sorte. On verra comment ça se cale en cours de semaine et de saison. Et puis, pour ouvrir cette nouvelle saison radiophonique et notamment cette nouvelle saison des matinales, j'accueille Michel Debonnaire, président du collectif de l'association. Président du collectif d'association Les Tisseurs de Liens. Je vais y arriver. Bonjour à vous, Michel. C'est le temps que je reprenne mes marques.
Oui,
il y a eu l'été, quoi.
Bonjour à toutes et à toutes. Bonjour Timothée, et puis bonne reprise à tout le monde.
Merci, c'est cool. On va avoir le temps dans cette émission, Michel, de développer, de revenir sur ce que sont les tisseurs de liens. On vous connaît évidemment, on a déjà eu l'occasion de travailler ensemble sur des actions que vous organisiez, de vous recevoir évidemment à ces micros, mais on prendra le temps de reparler un petit peu de tout ça. Et puis on parlera de votre agenda. Il y a notamment, alors ce week-end vous êtes sur le forum des associations, la semaine d'après cette gratiféria que vous organisez, donc on prendra le temps d'en parler. Puis il y a d'autres actions comme ça un peu plus tard sur l'automne, sur le début d'hiver. On prendra le temps ce matin d'en parler si ça vous va bien, Michel.
Ça me convient.
Vous êtes venu pour ça alors.
Un peu, oui, c'est oui.
Dans cette émission, on fera évidemment un détour du côté des bons plans. Voilà, l'agenda, des choses à venir dans les jours. Dans les jours qui suivent. On passera évidemment de la musique, des bons plans, de la bonne humeur. En tout cas, on essaiera. On vous rappellera que vous pouvez laisser des messages répondeurs, tout ça, tout ça. Enfin voilà, vous allez retrouver une formule proche de celle que vous connaissiez par le passé. Et vous le savez, en général, après cette courte introduction, eh ben on envoie un peu de musique. Avec Monsieur Deuze, c'est généralement de la soul music. Moi, j'aime bien prendre le contre-pied, faire autre chose. Et je vous propose voilà, un truc un peu plus... qui va vous réveiller, en tout cas. Merci d'être à l'écoute de Principe Actif et d'HDR. On the mic, there's so much you're telling the king of the township rebels. Yeah, what about that sucker? So you thought you could get with the hard rhyme to fill your mind. Thoughts, battles, fought, lessons taught. Yes, others played the fitness, then felt like a gymnast. Raise my fists and resist. Sleep though we stand in the midst of a war. Gotta get mine, gotta get more. Keeping the mic warm against the norm. Cause what does it offer me? I think often it's nothing but a coffin. Gotta get rough till I next never swing on a rope from here to the Cape of No Hope. Now freedom must be fundamental in Johannesburg or South Central. On a mic, cause
this platform. Fight the war. Fuck the norm. Why stand on a silent platform? Fight the war. Fuck the norm. Why stand on a silent platform? Fight the war. Fuck the norm. Why stand on a silent platform? Fight the war. Fuck the norm.
Rage Against the Machine, évidemment, on change pas une équipe qui gagne, et le morceau c'était Township Rebellion.
Ouais, salut la matinale.
Hi, principe actif.
Bonjour.
C'est moi le bordel.
Merci pour l'émission.
C'est toujours une belle ambiance.
I like a mauvaise mauvaise.
C'était super.
Et passez une bonne journée à la matinale sur 102.4.
Et 99.1 du côté de Rouen et 95.9 dans le sud du département de l'Eure, Verneuil, Breteuil et Conches notamment. D'habitude à cette heure-ci, quand nous sommes en pleine saison, là, on sait bien, ça reprend aujourd'hui, donc on comprends que vous n'ayez pas forcément eu l'opportunité de vous saisir de cette zone d'expression radiophonique qui est celle des répondeurs. Mais oui, en effet, d'habitude, à cette heure-ci, nous diffusons vos messages répondeurs. Je vous rappelle que vous pouvez donc nous donner vos avis, vos réactions, vos infos, vos coups de gueule, vos coups de cœur, vos remarques, vos annonces d'événements, ou tout simplement nous faire des petits bisous. On aime bien aussi. Et on le diffuse ça de bon matin, aux alentours de 8h10. Au 02 32 62 57 32, je le répète, 02 32 62 57 32. On repart en musique avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler du collectif des tisseurs de liens avec Michel Debonnaire, notre invité ce matin.
Attention à la vie, ma belle, attention à la vie n'est pas aussi facile. Ah, attention à la vie, ma belle, attention à la vie n'est pas aussi facile. Oh, tu sais pourquoi ma belle? Tu es aimé par le jeune du quartier, parce que tu es un beau frère. Ah, tu sais pourquoi ma belle, tu es aimé partout, partout, parce que tu es un beau jeune. Oh, tu voulais bien profiter de ta jeunesse pour bien vivre entre toi et la vie qui a vaincu. Belle, oh ma belle, belle, oh ma belle, belle, oh ma belle. Attention à la vie n'est pas aussi facile. Oh, tu sais pourquoi ma belle, tu es aimée par le jeune du quartier, parce que tu es un beau frère. Ah, tu voulais mieux profiter de ta jeunesse pour bien vivre entre toi et la vie. Qui a vaincu? Ah. C'est doux qu'à danser, c'est doux qu'à rouler, c'est doux qu'à rouler, c'est doux qu'à rouler, c'est doux qu'à zouker. C'est doux qu'à danser, c'est doux qu'à rouler, c'est doux qu'à rouler, c'est doux qu'à danser, c'est doux qu'à zouker.
Victor Démé avec le morceau Ma Belle.
Oh bah c'est bien, c'est bien. Et c'est, ça va passer à la télé, non?
Ça va pas passer à la télé, ça va passer à la radio.
À la radio, tiens, et c'est quelle radio alors? Sans
ça
être.
Oui. Principe actif à Évreux.
Oui.
HDR à Rouen.
Oui. Ça, bah merci de toutes ces précisions.
HDR, principe actif.
Je vous le disais dans l'introduction de cette émission, ce matin, notre premier invité de la saison 2019-2020, c'est Michel Debonnaire, le président du collectif d'association Les Tisseurs de Liens. Rebonjour Michel, merci d'être là.
Rebonjour.
Pour commencer, on va, même s'il y a certains de nos auditeurs qui vous connaissent sans doute déjà, puisque vous êtes plutôt bien implanté dans la région hébroïcienne et au-delà, et qu'on a déjà travaillé ensemble, collaboré ensemble, on vous a déjà reçu à ces micros, mais on va quand même revenir un petit peu sur ce qu'est ce collectif Les Tisseurs de Liens. Je le disais, différentes associations qui font ce collectif. Quelles sont ces associations, les membres, voilà, on va dire éminents du collectif Les Tisseurs de Liens, et avec quelle intention a été créé ce collectif, Michel?
Alors, le collectif a débuté début 2011, où différentes associations dans le secteur du social, médico-social, handicap et de l'économie solidaire ont commencé à se réunir pour mieux se connaître. On s'est aperçu qu'on ne se connaissait pas du tout et qu'on avait des choses à mettre en commun pour le bien de tous. Donc, on s'est réunis de plus en plus souvent. Comme on dit, la mayonnaise a bien pris et on a constitué un réseau d'associations qui maintenant compte une centaine d'associations sur Évreux et bien au-delà maintenant, puisqu'on a des associations de Verneuil, de Passy, de Louviers, et on en a d'autres qui frappent à la porte, comme on dit, pour venir avec nous. Donc actuellement, on est une centaine d'associations et on travaille ensemble pour le bien de tous.
Vous disiez que vous ne connaissiez pas forcément, alors que c'était des associations qui œuvraient dans le même secteur. Vous avez dit social, médico-social, sans doute des pratiques professionnelles proches les unes des autres. Et pourtant, visiblement, il n'y avait pas quelque chose qui avait permis à ces associations-là de confronter leurs pratiques, leurs expériences, aussi tisser un réseau solide pour permettre l'échange de savoirs, de pratiques, de compétences, enfin, je ne sais pas. Ça peut paraître surprenant que des acteurs d'un même secteur ne se connaissent pas forcément, et on imagine bien que c'était ça le moteur du collectif Les Tisseurs de Liens, c'est de se dire c'est pas possible que quand on travaille dans le même secteur on ne se connaisse pas, on ne se côtoie pas, on œuvre pas ensemble, et on a besoin de quelque chose qui nous fédère et qui nous qui nous appuie, qui nous élève.
Oui, mais en fait chaque association en 2011 travaillait dans son coin. On avait tous la tête dans le guidon, donc on n'a pas obligatoirement le temps de regarder à côté. Et puis, il suffit d'une petite étincelle. En fait, c'est venu du CCAS qui a fait une étude et qui s'est aperçu qu'il y avait besoin d'autre chose que des associations, chacun dans leur coin. Donc, c'est comme ça que c'est né. On a commencé à se réunir, quelques associations. On était une 10-20 au début. Et puis, on a trouvé des compléments. Chacun pouvait œuvrer aussi pour l'autre, parce que quand on avait une personne qui venait nous voir pour une problématique, on n'avait pas obligatoirement la réponse à lui donner dans notre association propre. Donc le fait de savoir qu'à côté, il y a une autre association qui peut aider cette personne, ça nous a beaucoup aidé. Et puis, il y a beaucoup de petites associations qui n'ont pas les moyens de communiquer. Donc, les tisseurs de liens aident ces petites associations à communiquer, à mettre en commun le bien commun, en fait, et pour le bénéfice de tous les publics qui viennent nous voir.
Alors, on va parler des publics en général et en particulier qui sont dans les tisseurs de liens, enfin qui fréquentent les associations et membres du réseau, du collectif des tisseurs de liens. Je voulais juste revenir, vous avez mentionné le CCAS, vous aviez l'air de sous-entendre que ça avait été aussi quelque part de par son impulsion qu'était né le collectif. Au-delà du CCAS, quel rôle prend la puissance publique, la force publique avec le collectif? Est-ce que il est possible pour des associations ou des membres du collectif de faire sans la force publique, la puissance publique, les institutions, ou c'est évident que c'est un partenaire incontournable et qu'il faut il faut travailler avec eux? Et comment ça se... Quelle place ça prend, tout simplement?
On est obligé de travailler de toute façon avec le CCAS parce qu'on n'a pas le monopole de tout et eux ont quand même beaucoup plus d'ouverture. Mais parfois, le CCAS vient nous voir, nous demande parce qu'ils ont des cas qu'ils ne peuvent pas régler. Donc, ils s'adressent aux associations spécialistes et pour les personnes, pour les cas précis. J'ai régulièrement des appels de membres du CCAS qui me disent « voilà, j'ai telle personne, nous on ne peut pas parce que ce n'est pas dans nos prérogatives, qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux ?» Donc on lance un appel sur notre réseau. Il faut savoir que dans le réseau des tisseurs de liens, j'ai plus de 250 contacts. Donc quand j'ai une problématique d'une association ou du CCAS, j'envoie un message et en général, en 48 heures, on arrive à trouver une solution. Donc c'est aussi la puissance, mais on peut pas faire sans les institutions.
c'est évidemment à ça que ça sert, un réseau et un collectif d'associations. C'est que quand on a une question, une interrogation, une inquiétude, eh bien, on ouvre ce questionnement-là, cette inquiétude-là aux autres membres du réseau et avec l'espoir. Et souvent, ça, j'imagine que ça répond favorablement et qu'on trouve une solution en collectif. Ça sert à ça, le collectif.
Ça sert à ça. C'est pour ça qu'on a établi aussi, on a fait un répertoire des associations qui a été monté en 2014. À cette époque-là, on avait déjà 73 associations qui étaient dans ce répertoire. Nous l'avons réactualisé en 2018. Ça a demandé quand même un an de travail pour le réactualiser. Nous sommes à 93 associations dans le répertoire. Et maintenant, nous en faisons une formule, ce qu'on appelle dématérialisée. Chaque personne qui le veut, on lui envoie gratuitement. Et dans ce répertoire dématérialisé, on est à 105 associations. Et on s'enrichit en permanence.
Alors, évidemment, avec un tel nombre d'associations, il va être compliqué de toutes les détailler en 40 minutes, de prendre le temps. On risquerait d'en oublier. Voilà, ça créerait des problèmes qu'on n'a pas envie d'affronter ce matin, Michel.
Non.
Plus sérieusement, dans les grandes lignes, on a parlé du secteur social, médico-social, de l'économie sociale et solidaire. Toutes les associations qui composent ce collectif des tisseurs de liens œuvrent de près ou de loin dans ce champ-là, plutôt de près d'ailleurs. J'aimerais peut-être qu'on prenne le temps de parler des publics concernés, par les associations qui œuvrent dans le collectif, dans le réseau. Est-ce qu'on s'adresse à tous les publics, des publics plus spécifiques? Quels sont-ils? Et puis, dans les grandes lignes, peut-être quel est le lien avec le public? Enfin voilà, quel regard vous portez sur les personnes qui passent par les associations et les membres du collectif?
Tout public, en fait, chaque association est un peu plus spécialisée avec un public particulier, mais quel que soit le public, ils peuvent venir nous voir ou voir une association pour dire, voilà, j'ai tel problème, comment vous pouvez m'aider? Et on est ouvert à tout questionnement et à toutes les aides possibles et inimaginables. Il faut savoir aussi qu'on travaille avec la CPM, ce qui est quand même très important. Et eux, on aimerait aussi qu'on les aide sur ce qu'ils appellent le public invisible. C'est toutes ces personnes qui sont en très, très grande difficulté et qui ne se manifestent pas. Et par notre connaissance du réseau, on peut aussi aider ces personnes à retrouver de la dignité ou des droits, tout simplement.
Ce public invisible, comme vous dites, ce sont les personnes notamment qui ne demandent pas leurs droits, qui auraient le droit à des aides X ou Y, à une prise en charge par exemple de la CPM, vous en parliez à l'instant, et qui ne le savent pas ou pour d'autres raisons qui ne demandent pas ces droits-là, auxquels ils ont droit d'ailleurs.
Oui.
Enfin, c'est d'où le mot. Voilà, on parle bien de ce public-là.
Tout à fait.
Comment on... Alors là, c'est précis et en même temps, c'est un travail, j'imagine, compliqué, difficile. Comment on touche ce public-là et comment on, entre guillemets, on transforme l'essai? On fait en sorte que quelqu'un qui ne savait pas ou qui ne réclame pas ses droits depuis des années, parce qu'il est dans certaines pratiques ou c'est une certaine précarité, difficulté, comment, une fois qu'on l'a repéré, cette personne-là, entre guillemets, eh bien, on transforme l'essai, voilà, on l'accompagne jusqu'à ce qu'il puisse obtenir ce dont quoi il a le droit.
Le problème de ces publics invisibles, c'est comme leur nom le dit, ils sont complètement invisibles et il y a des personnes qui refusent tout parce que ils ont eu plusieurs refus et ils abandonnent complètement. Mais c'est pas obligatoirement des marginaux. Ils sont marginaux dans le sens où on a du mal à les aider, mais il y a des personnes qui ont un logement et qui ont différentes choses, mais elles ne demandent rien à personne, elles vivent comme elles peuvent, elles survivent, et c'est justement là la difficulté de les mettre dans la lumière, ces personnes. Mais dès qu'on en repère une, c'est de l'accompagner au plus près, au maximum. Il faut aller tout doucement aussi, parce que c'est des personnes qui se braquent très très vite et qui se referment sur elles-mêmes très rapidement. Et après, il est très très difficile de les faire retrouver dans leur droit.
Vous parliez de survie. J'ai la sensation que l'idée derrière tout ça, c'est peut-être ça l'objectif visé, c'est d'arrêter, de faire en sorte que des gens arrêtent d'être dans la survie et soient dans quelque chose de l'ordre de la vie digne. J'imagine que c'est ça que un petit peu le but ultime, la direction que se donne le collectif et ses membres.
Tout à fait. On serait pas là dans la solidarité si on n'aidait pas ces publics difficiles. Enfin, difficiles. C'est difficile pour eux, donc c'est difficile aussi pour nous parce que on a des cas qui sont prégnants quand même. Et faire retrouver de la dignité à une personne, c'est pas facile. C'est un travail de très très longue haleine. Il faut mettre toutes les associations possibles dans le coup pour que chacun, à son niveau, puisse aider la personne.
Qu'est-ce qu'on appelle une vie digne ? Est-ce que j'imagine qu'il y a dans langage un peu institutionnel, il y a des petites croix à cocher, des critères. Voilà. Alors ça, c'est une vie digne. Ça, c'est une vie digne. Ah non, ça non. Plus sérieusement, Michel, parce que on sait combien ça peut être des choses très compliquées à vivre et une réalité qu'on a parfois envie de mettre un peu sous le tapis. Par quoi ça passe avoir une vie digne? On parlait de la problématique du logement, mais on se rend aussi compte que ce n'est pas forcément la seule problématique. On parle régulièrement des sans-domicile fixe, des sans-abri, qui résumeraient un petit peu la problématique de certains juste à la question du logement, alors que en fait les problématiques sont multiples et on peut d'un côté être plutôt bien inséré parce qu'ayant un emploi ou une vie sociale et en même temps être en difficulté sur plein d'autres aspects. Enfin voilà, qu'est-ce que ce serait la vie digne pour comme définition pour les membres du collectif ou en tout cas vous, Michel Debonnaire?
La vie digne, ça dépend des personnes parce qu'on est chacun un individu avec ce que l'on souhaite, ce que l'on pense. La vie digne, c'est pas un terme générique. Une personne dans la rue peut être avoir une vie digne parce que c'est ce qu'elle souhaite. Et puis vous avez une personne qui vit relativement bien pour nous, peut-être dans certains critères, et n'a pas avoir une vie digne. La vie digne, c'est assez personnel. C'est ce que la personne a envie de faire de sa vie. À partir du moment où elle ne nuit à personne d'autre, on peut estimer que c'est une vie digne.
Mais quand elle se nuit à elle-même?
C'est là toute la difficulté, parce que il y a beaucoup de personnes qui se nuisent à elles-mêmes et qui ne se rendent pas compte, parce que c'est pratiquement la normalité pour elles. Et c'est là toute la difficulté de dire vous êtes pas digne. On n'a pas le droit de dire à une personne ce que vous faites, c'est pas digne. Sauf si c'est vraiment très très marginalisé ou si elle fait une atteinte à la vie des autres ou à sa propre vie. Mais c'est très subjectif quand même.
C'est vrai qu'on touche là à des questions en effet singulières, subjectives. C'est pas forcément évident et j'imagine qu'il faut surtout pas prendre ces questions-là avec seulement comme angle de vue celui de la bonne morale, qui d'ailleurs est soit dit en passant assez abstraite et qui va varier d'un individu à un autre.
Totalement.
Mais c'est pas une bonne façon de prendre ces problématiques-là et surtout de rentrer en interaction avec un certain nombre de personnes et de publics qui rencontrent certaines difficultés. Il faut accepter peut-être une forme de remise en question de ses propres valeurs avant de se jeter dans le grand bain, si je puis dire.
On a chacun ses propres valeurs, mais on peut pas se permettre de juger une personne parce qu'on a des valeurs autres que ce que cette personne représente. Une personne peut être digne pendant une grande partie de sa vie à un moment donné parce qu'elle a une problématique, que ce soit familiale, médicale ou autre, je ne sais quoi, perdre un peu de sa dignité. On doit être là pour la remettre. Et la société, pour moi, c'est aussi prendre une personne qui a des difficultés, de la remettre dans sa dignité de ce qu'elle souhaite et passer à quelqu'un d'autre. Pour moi, la société ne devrait pas aider une personne sur toute sa vie. On doit trouver le bon équilibre pour que cette personne retrouve son autonomie de vie, ce qu'elle souhaite dans sa vie personnelle. Et après, une fois qu'on l'a remis sur, entre guillemets, les rails qu'elle souhaite avoir, c'est passé à quelqu'un d'autre. Moi, je ne conçois pas qu'une société doive aider une personne sur toute sa durée de la vie. La société doit servir à aider dans une difficulté ponctuelle, mais pas accompagné.
Alors évidemment, on touche là à ce qu'on appelle la solidarité.
Tout à fait.
Des mots et des et au-delà des mots, des idées fortes que défend le collectif les tisseurs de liens. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'on appelle la solidarité ? Est-ce que ce serait pas justement ce que vous étiez en train de dire à l'instant, cette action, si je puis dire, de remettre en selle les personnes qui rencontrent des difficultés et de collectivement de faire en sorte que chaque membre de la communauté se trouve sa place. Et sa dignité dans le collectif de la communauté.
C'est ce qu'on a mis dans notre phrase de Stéphane Hessel, que chaque personne trouve sa dignité dans la vie. Et ça, c'est très important. La solidarité, ça prend beaucoup de mots. Ça peut être un sourire, ça peut être une parole, ça peut être une aide très ponctuelle. On emmène une personne d'un endroit à un autre et pour une mission quelconque, et ça, c'est de la solidarité, parce que c'est anonyme, on ne demande rien à personne, et c'est surtout ça, la solidarité, c'est aider la personne anonymement, moi je dirais, et sans en faire état devant tout le monde.
Je pense qu'on a fait un tour évidemment pas complet, exhaustif du collectif, des associations, des membres, des grandes lignes un petit peu que se donne comme mission, le collectif. On pourra évidemment y revenir, à moins que tout de suite, Michel, vous ayez envie de rappeler quelque chose d'essentiel qu'on aurait malencontreusement oublié.
Je pense que ça viendra dans la discussion.
On continuera dans un instant.
Alors,
eh bien, on s'accorde une petite pause musicale et on revient juste après avec vous. Je rappelle que ce matin, nous sommes avec Michel Debonnaire, le président du collectif Les Tisseurs de Liens. On repart en musique.
Tu sais, refrain. Vraiment. J'en ai passé des mois, des années à tanner mes frocs, mes shorts sur les bancs de ce quartier. J'ai traîné à taler mon âme. Où est le drame? C'est ici qu'est née la flamme. C'est ici aussi que j'ai aiguisé ma tique et les ching-ching. J'ai tenu les murs, entendu ces murmures. J'ai écrit ces odeurs qui se mélangent, les cultures qui s'échangent. Comme les coups de main, les coups du sang, les coups de feu. Et les 396 autres coups vicieux. La paix, sûrement pas demain. Le destin des gamins solides comme un tache dans le désert urbain. Donne-moi ta main. Maman, et prends la mienne. Mais oui, on s'arrache de ma tessie.
Ici en France, le futur meurt en silence. Aujourd'hui, réfléchirai, perçu comme une force. J'avance dans le bon sens. Et comme petit prince, entre dans la danse.
Ici en France,
le futur meurt en silence. Aujourd'hui, réfléchirai, perçu comme une force. J'avance dans le bon sens. Et comme petit prince, entre dans la danse.
Donne-moi la main, descendons dans le goût. Certains ont encore toute leur tête, donc les états atteignent.
Dans ce climat sulfureux,
j'ai su m'adapter et canaliser mon énergie au mieux.
Je ne sais pas combien s'en sont sortis, combien sont restés.
Dans cette chapelle ardente pour sa volcanicité. Tel un caillou plongé dans le ruisseau, qui va irrémédiablement de lui-même vers le fond.
Je compte sur mes positions, accomplis ma mission.
Nous n'avons que faire des considérations de ceux déjà contaminés par le poison de la masse manipulation. Ce qui met en exergue les raisons
pour lesquelles nous nous attachons à pousser toujours un peu plus loin notre niveau de réflexion.
Non, ce n'est pas parce que je suis un noir en difficulté. Non. Je crache sur un blanc aisé qui comme moi est sûrement prisonnier dans l'encre de la souffrance. Donc je m'instruis et pense pour briser le silence.
Ici en France, le futur meurt en silence. Aujourd'hui réfléchir et percer comme une force. J'avance dans le bon sens. Si comme tu penses, entre dans la danse.
Ici en France,
le futur meurt en silence. Aujourd'hui réfléchir et percer comme une force. J'avance dans le bon sens, si comme tu penses, entre dans la
gorge. La coulée, l'on s'envole, s'échappe en parabole. De cette vision raccourcie par mon lien à cette terre apocalyptique que jamais je ne renie.
Il fait la traître apologie tragique.
Christ, arbre de pierre, dont je suis le fruit.
Nourrir la sève amère du nord du pays.
vois quoi, de part en part de l'Hexagone, de Marseille à Paris, de longs serpents de béton se laissent mourir au soleil, ou pourrir dans l'oubli. Toutes ces cuves naissent fermement différents phénomènes, de la pire des pourris toujours aux frères, de la femme à la hyène, seul sur la barque de la solitude, ma conscience s'est trouvée mise à rude épreuve. Toujours le reflet de cette ville me pousse à quitter le fleuve, rejoindre l'océan,
surtout l'horizon,
malheureusement invisible là-bas en toute saison. L'essence s'est évaporée,
le parfum retiré,
sous la pluie, l'asphalte, tu sais plus, le chien mouillé, la grisaille des murs, le ciel teinté d'acier. Combien de fois a-t-on rêvé de pouvoir les ventrer?
L'état nous tenaille, c'est sûr, il n'y a plus qu'à constater.
Combien de fois a-t-on rêvé de pouvoir l'enculer? Mais comme le boomerang, le possi m'a lancé. Quand je délie ma langue, c'est dans mon contexte privilégié,
bien entouré, bien accompagné, tu sais,
ouais,
tu
alors sais. Je l'ouvre bien grand pour que tout le monde entende. Ici en France, le futur meurt en silence.
Ici en France, le futur meurt en silence. Réfléchir aujourd'hui est perçu comme une offense. J'avance dans le bon sens, c'est comme nous tu penses. Entre dans la danse.
Ici en France,
le futur meurt en silence. Réfléchir aujourd'hui est perçu comme une offense. J'avance dans le bon sens, c'est comme nous tu penses. Entre dans la danse.
Ici en France,
le futur meurt en silence. J'avance dans le bon sens, c'est comme nous tu penses. Entre dans la danse.
Ici en France,
le futur meurt en silence. Aujourd'hui réfléchir est perçu comme une offense. J'avance dans le bon sens, c'est comme nous tu penses. Entre dans la danse.
On vient d'écouter Cabal avec le morceau Le futur meurt en silence.
Le pire reste à venir tous les lundis, mardis, jeudi et vendredi.
Le pire reste à venir.
Toujours en compagnie de Michel Debonnaire, président du collectif Les Tisseurs de Liens, collectif d'associations œuvrant notamment dans les champs, les secteurs du social, du médico-social, de l'économie sociale et solidaire. Si vous nous rejoignez ce matin, voilà le petit pitch de rappel. On a dans les grandes lignes parlé du réseau, de ce qu'il faisait, qui étaient les membres de ce réseau et ce collectif. On est en train de parler de solidarité. Juste avant de s'accorder une petite pause musicale, on poursuit nos échanges. Je voulais vous demander votre regard, peut-être plus singulier, pas forcément uniquement en tant que représentant du collectif, en tant que président, mais on parle régulièrement de concepts, de mots comme ça, que sont la précarité, la pauvreté. On en parlait déjà dans la première partie de notre échange, les publics avec qui sont amenés à travailler les associations, membres du réseau, du collectif, œuvrent auprès de publics qui sont dans ce qu'on appelle la précarité ou la pauvreté. Vos idées à vous derrière ça, qu'est-ce que vous mettez comme idée, comme réalité aussi, celle des gens qui traversent ces moments-là de la vie. Et comment on fait pour lutter contre la précarité et la pauvreté? C'est presque une injonction pour un ministre, ça, mais en même temps, chacun d'entre nous peut se sentir concerné, évidemment.
Oui, mais comme on dirait, à l'impossible, nul n'est tenu, mais on doit aider son prochain, là, je suis sur d'autres concepts, mais on doit obligatoirement aider son prochain. Mais aider son prochain, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, un sourire, une parole bienveillante, et après, ça peut aller au-delà. Mais c'est en fait, chaque personne a un cas différent, donc on aidera une personne différemment, selon sa vie perso. Donc, y a mille et une façon d'aider son prochain, comme on dit.
Sur la question de la précarité, de la pauvreté, qu'est-ce qui le, Qu'est-ce qui le définit? De quoi on parle concrètement? Est-ce que c'est forcément uniquement sous le point de vue entre guillemets économique et financier? Voilà, le fameux seuil de pauvreté. Je suis au-dessus, je suis en dessous. À partir du moment où je suis au-dessus, je ne suis pas pauvre, je ne suis pas précaire. À partir du moment où, à l'inverse, je suis en dessous de ce seuil, eh bien, ça y est, je suis considéré comme pauvre ou comme précaire. Ou j'imagine qu'il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte.
Il y a plein de d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, parce qu'il y a on peut avoir pouvoir subvenir à ses besoins élémentaires et être en précarité parce que on est complètement isolé, on n'a pas de vie sociale. Ça, c'est très important d'avoir une vie sociale. On peut être en difficulté et avoir une vie sociale très très riche. Je connais des personnes qui ont une vie sociale très très riche et qui pourtant ne sont pas richissimes, ont du mal à boucler leur vie, mais elles sont bien entourées et elles arrivent quand même à avoir un petit épanouissement.
C'est ce que les sociologues appellent les questions de capitaux, et pas seulement ceux de les capitaux économiques, mais le capital social, le capital culturel. Voilà ce socle et ce réseau, notamment quand on parle du capital social, auquel je peux mobiliser pour telle ou telle raison, et qui fait que je ne suis pas un être isolé dans le collectif.
On s'en aperçoit, nous, quand on fait des actions, on rencontre des personnes, que ce soit des personnes en situation de handicap ou autre. On a des personnes qui sont très heureuses dans la situation qu'elles vivent actuellement, parce qu'elles sont bien entourées. Et d'être bien entouré, que ce soit par des amis ou de la famille, c'est je dirais, primordial.
Comment on lutte, comment on œuvre à lutter contre cette précarité, cette pauvreté, cet isolement? Vous pourriez évidemment me répondre facilement, eh bien, on vient adhérer à une des associations membres du collectif. J'imagine que voilà, le collectif des tisseurs de liens se pose comme une des réponses, une des solutions, ou en tout cas une tentative de contribuer à aider contre cette précarité, cette pauvreté. Mais sous cette question-là, il y aurait peut-être la question de fond, c'est qui est qu'est-ce que la société, le collectif, la communauté, nous ne faisons pas et nous devrions faire, selon vous, pour réduire ces inégalités, cette pauvreté, cette précarité?
Ouais, je dirais que c'est de laisser personne sur le bord de la route, mais comme on disait tout à l'heure, les personnes invisibles, justement, on les laisse sur le bord de la route parce qu'on ne les voit pas. On n'a pas le temps de s'arrêter pour elles, et c'est les personnes qui ne demandent rien à personne, qui vivent leur pauvreté, qui se débrouillent, et c'est à nous, justement, de rechercher ces personnes pour les aider. Dans le domaine du possible, de ce que le collectif peut faire.
Donc, mieux observer et trouver les personnes invisibles, celles qu'on ne voit pas, donc ouvrir un peu plus grand les yeux, ça commencerait par là.
Tout à fait, et le fait de se connaître a ouvert les yeux à beaucoup d'associations. Moi, pour mon cas personnel, je suis aussi président d'une autre association qui s'appelle la FNAT, les accidentés de la vie. Le fait d'être dans le collectif m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses sur lesquelles je ne pensais pas que c'était comme ça.
On va parler un petit peu des prochains rendez-vous pour le collectif, ses membres et les associations qui y contribuent. On va parler dans un instant de la Gratiféria qui aura lieu le 14 septembre prochain. C'était un peu la porte d'entrée. J'avais décroché le téléphone. Je dis ça aux auditeurs. Allô Michel, vous voulez venir parler de la Gratiféria? Et puis au final, on se retrouve à parler de plein d'autres choses pendant presque une heure. Plus sérieusement, avant cette Gratiféria de la semaine prochaine, vous serez au Forum des associations ce week-end, oui, à Évreux, des expos. Avec quelle idée? Pourquoi? Globalement, pourquoi c'est important pour vous d'être présent sur cette grande messe associative, si je puis dire, ce grand rendez-vous, en tout cas, hébroïcien, et puis plus nationalement, parce que chaque ville organise son forum des associations?
Il nous a paru important d'être au forum des associations de loisirs, parce que dans nos publics respectifs, il y a plein de personnes en situation de handicap qui ne savent pas comment s'adresser entre guillemets, à des clubs sportifs pour exercer quelque chose, sportif ou autre. Et nous, par notre connaissance de tout ce milieu, on peut aider ces personnes à trouver un club, une association qui arrivera à satisfaire les besoins des personnes qui viennent nous voir. Et c'est comme ça qu'on a décidé on a été accepté pour être dans ce forum des associations de loisirs. Il a fallu se battre un petit peu quand même.
Ah bon, il faut se battre. Bon, c'est terrible. En tout cas, si on veut vous rencontrer dès ce week-end, en effet, au Forum des Assos, à la Halle des Expos à Évreux.
Tout à fait. On sera présent sur les deux jours et toutes les personnes peuvent venir nous voir. On donne des prospectus, on donne des conseils. Il y a même des associations du collectif qui sont avec nous, justement, qui peuvent expliquer ce qu'elles font. Comment elles peuvent aider le grand public.
On arrive à cette gratiféria du 14 septembre prochain. Ce sera après le forum des associations le week-end suivant. Alors, qu'est-ce que c'est que cette gratiféria? C'est quoi une gratiféria? Et puis, qu'est-ce que ça vous permet surtout cette journée d'action qu'est-ce que ça permet pour le collectif?
Alors, je vais revenir un peu en arrière. Depuis 2011, on organisait des biennales. Et la dernière que l'on a pu organiser, c'était en 2017 à la Halle des Expositions. Ça se tenait un samedi après-midi où on faisait un forum associatif, on faisait une exposition d'art visuel et des arts scéniques. Et on s'est aperçu qu'au bout de 4 biennales, il fallait qu'on renouvelle un peu le genre. Donc on a décidé en 2019 de toujours l'appeler la biennale, mais on le fait avec 3 temps fort sur des lieux différents. Donc, notre premier temps fort, c'est cette gratiféria qui se tiendra samedi 14, place Étourcelle, de 9h à 17h. Alors, la gratiféria, c'est un concept qui vient d'Amérique du Sud. Comme son nom l'indique, c'est gratuit et feria, la fête. Donc, on a mis ça sur nos flyers, la fête du gratuit. En fait, c'est toutes les associations du collectif qui auront un stand, qui aussi expliqueront ce qu'elles font dans leurs associations, mais mettront à disposition des objets que l'on donnera. Toute personne même qui veulent bien donner, ont des objets à donner, nous les amène le samedi matin, ou alors ils peuvent contacter les tisseurs de liens à la Maison de la Santé, ou comme ça. Elles nous apportent des objets, quels qu'ils soient, en bon état, naturellement, et tout public qui le souhaite vient et prend l'objet qui l'intéresse. On ne demande rien d'autre. Ils le prennent et ils s'en vont. Et naturellement, on ne demande pas aux personnes de venir avec des brouettes et de repartir avec la moitié des objets. Mais on limite à peu près à 3-4 objets par personne. C'est le concept de cette gratiféria. Et ça fait partie aussi de la solidarité. Parce que ce concept d'Amérique du Sud, c'était justement ce que les personnes un peu plus aisées pouvaient aider les personnes complètement démunies. Et c'est dans ce principe. Et ça commence à essaimer énormément en France, il y en a énormément. Et nous, sur Évreux, c'est la première qu'on organise. On l'avait testé à un téléthon et on avait vu que ça fonctionnait très très bien. Donc on a voulu l'amplifier sur une journée complète.
Donc l'idée pour vous, c'est évidemment un autre moment de communication tourné vers l'extérieur pour les associations. Et puis ce concept de gratuité, de fait du gratuit, des gratuits, rappeler aussi que un échange entre êtres humains, il n'y a pas forcément besoin qu'il soit monnayable pour qu'il ait de la valeur.
Complètement. Et puis ça permet aussi de nouer des contacts. Et là, on pourrait aussi voir des personnes invisibles parce que la personne qui vient chercher un objet, naturellement, elle aura un contact avec le stand où sera l'objet. Et là, on pourra éventuellement nouer des contacts et dire, comment vous est venue votre problématique? Nous, on peut éventuellement vous aider, venez nous voir. Reprenez contact avec nous, ou nous, on prend vos coordonnées et on vous rappelle. Et c'est comme ça qu'on travaille dans la solidarité.
Donc cette gratiféria, le 14 septembre prochain, place 7 Étourcelle à Évreux.
Et les berges de Liton, oui. C'est plus facile à trouver quand on dit les berges de Liton.
Et puis, vous me le disiez hors micro, il y a deux autres rendez-vous, si j'ai bien tout saisi, après cette gratiféria. C'est peut-être le moment d'en parler, même si nous, évidemment, sur nos antennes, quand ça arrivera, on prendra évidemment le temps de les réannoncer. Mais peut-être qu'on peut en parler dès maintenant, si vous voulez bien, Michel. Quelles sont ces actions? J'imagine qu'on est dans la continuité de ce que vous évoquiez à l'instant, cette biennale que vous avez décidé de d'éclater entre guillemets en trois temps, si j'ai bien tout suivi. Michel. Ah ben ça va, je vous rassure, hein, parce que vous savez, c'est la reprise. J'aurais peur de pas être comme un mauvais élève, pas tout à fait attentif, rester collé au radiateur en fond de classe.
Non, c'est très bien. Alors notre deuxième temps fort, parce que je disais que dans nos biennales, nous faisions un forum associatif, donc qui sera repris, mais pour la gratiféria. On avait des arts visuels, une exposition d'arts visuels et une exposition des arts scéniques. Donc, les arts visuels, cette année, auront lieu du 18 au 22 novembre, sur une semaine quand même, une exposition, et ça se tiendra dans le hall du conseil départemental. Et là, c'est très, très important. Nous avons réussi à demander au président du conseil départemental, qui a accepté, parce que en tant que tisseur de liens, on représente 100 associations et on représente un public énorme. Et
c'est un acteur majeur sur le territoire, évidemment.
Donc voilà. Et il faut savoir que cela représente quand même 15 associations et institutions qui vont présenter au moins 150 œuvres tout au long de cette semaine. Donc c'est très important. Et le conseil départemental, en plus, nous aidera dans notre communication, puisqu'eux, ils ont un service com très compétent. On a déjà rencontré des personnes qui sont formidables. Et on espère que le grand public sera au rendez-vous.
Juste un mot, Michel, sur ce qu'on retrouvera dans cette exposition, donc dans le hall du
conseil départemental
au mois de novembre. Expo de dessins, de tableaux, de peintures,
de dessins, de photos, de collages. Tout ça, c'est fait par les publics des associations qui sont dans le collectif. Je peux citer quelques-uns, mais je vais en oublier certainement.
Vous allez prendre des risques et vous faire taper sur les doigts dès la fin de cet entretien.
Non, pas du tout. Mais entre autres, il y a la ronce, il y a la page 27, J'ai pu en mémoire tout.
On les a oubliés.
J'ai complètement.
C'est pas grave. Vous avez pris les risques, Michel. Oui, mais on salue l'initiative.
Si on prend pas de risques,
il se passe rien.
Il se passe rien. Non, mais il y aura quand même plus de 150 œuvres exposées. Et je sais que ça prendra tout le hall du conseil départemental, qui est quand même assez grand. Donc là, j'invite, mais on communiquera aussi. J'espère que je serai réinvité pour justement.
Ben voilà. Là, Michel, il prend les rendez-vous, comme ça. Mais vous faites bien à l'antenne. Avez raison, c'est le meilleur moyen. Hein. Je peux plus vous dire non.
Là, j'aurai la liste de tous les participants.
J'oublierai
personne.
Le dernier rendez-vous qu'on prenne le temps d'en parler en un mot, Michel, si vous voulez.
Alors, le troisième rendez-vous, c'est des arts scéniques. C'est aussi des publics, des associations qui font une prestation scénique. Et ça, je peux vous dire que c'est formidable. Ça se tiendra le samedi 30 novembre à la maison de quartier de Netreville. Et c'est pareil, je ne nommerai pas parce que de toute façon, la programmation n'est pas finalisée, mais il y a des choses extraordinaires qu'on a l'habitude de voir.
Là, on va retrouver sans doute un peu de musique, des concerts, du théâtre,
La danse, de la poésie, de tout ce qui peut se passer sur scène.
Très bien. Dernière chose, Michel, j'imagine qu'on peut retrouver ces infos-là, ou en tout cas prochainement les infos sur les internets. Et puis, comme on le disait, peut-être le meilleur moyen pour vous rencontrer là le plus rapidement, c'est de venir au Forum des associations ce week-end à la Halle des Expos à Évreux.
Tout à fait, on sera présent et là, on vous donnera toutes les informations. Et pour cette gratiféria, si vous avez des objets à donner, n'hésitez pas, venez nous voir et on peut se déplacer et les chercher chez vous. Il n'y a pas de problème, sauf si c'est une voiture ou des choses comme ça. Sachez quand même que vous pourriez éventuellement donner un véhicule, à condition qu'il soit en état avec tous les papiers. Mais pourquoi pas, on est ouvert à tout. Donc on n'a pas de limite dans le domaine.
Très bien. Merci à vous, Michel Debonnaire. Je rappelle que vous êtes le président de ce collectif Les Tisseurs de Liens, à retrouver ce week-end au Forum des Assos à Évreux, la semaine suivante, le 14 septembre, pour notamment cette gratiféria sur les berges de Liton à Évreux. Et on se rapproche de vous, évidemment, sur les internets. On retrouve voilà le contact, le numéro de téléphone, l'adresse mail. Et puis, on peut venir vous voir. On repart avec une dernière pause musicale avant trois bons plans. Et justement, ça préfigure un peu nos bons plans. On va écouter Altin Gun, je vais y arriver, le morceau c'est Goka Dunia. Ils seront à retrouver à Rock in the Barn très prochainement, on en parle dans un instant. Altin Gun avec le morceau Goka Dunia, à retrouver le 14 septembre prochain du côté du festival Rock in the Barn.
Bah, tu sais, je commence à en avoir plein le cul. Non, mais c'est vrai, c'est pas une raison parce que je donne à tout le monde des bons tuyaux que je mérite pas un peu d'amour.
T'as raison, Iggy, je t'aime.
Ah, c'est pas croyable, il faut que je m'énerve. Pour que tu me le dises, ça te coûtera 30 francs. Payable en deux fois. Qu'est-ce que tu veux comme tuyau?
Le pire reste à venir, tous les lundis, mardis, jeudi et vendredi.
C'était pas ça. Bon, voilà, c'est le temps que je reprenne mes marques, hein, c'est la reprise. Hein. Soyez indulgents. Et comme on a bien discuté avec notre invité ce matin, j'ai pas du tout le temps de vous faire de bons plans. Écoutez, affaire à suivre. Vous avez qu'à, par exemple, écouter demain la matinale, à cette heure-ci, qui sera animée par Jean-Jean. Juste avant de se quitter, remercier notre invité, Michel Debonnaire du collectif Les Tisseurs de Liens. Le programme du jour sur nos antennes, je vous invite tout simplement à vous rendre sur nos sites internet respectifs, radiohdr.net, principeactif.net. On vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes. Moi, je vous retrouverai vendredi matin. Ciao, 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 ciao. We'll be right back.